Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lave et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Nous, les hommes, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Oh, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes, dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Vous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mao, comment ça va ?
Ça va très bien et toi Pauline ?
Ça va bien, merci. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez On se lève et on se casse, les violences sexuelles et plus particulièrement leur coût pour la société et surtout pour les victimes.
Et oui, parce que parler du coût des violences sexuelles, c'est d'abord comprendre concrètement comment elles impactent la vie des personnes qui les subissent et se rendre aussi compte que ces violences ont un coût pour la société dans son ensemble.
Et sans plus attendre, on vous présente notre invitée aujourd'hui, Virginie Cresson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante et vous avez publié le 24 avril dernier une enquête très importante intitulée « Le prix des larmes, le coût caché des violences sexuelles » aux éditions Grasset, préfacée par Édouard Durand, l'ancien président de la CIVISE, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Bienvenue.
Merci.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Alors d'abord, il faut bien admettre que depuis l'avènement de MeToo en 2017, c'est la première fois que l'on voit une enquête sur le coût des violences sexuelles. Comment vous est venue l'idée de traiter de ce sujet sous l'angle du coût financier, social, professionnel des violences sexuelles pour les victimes ?
Alors avant d'être une idée, c'était un constat personnel, purement personnel, puisque j'étais confrontée à cette question toute ma vie en fait, puisque j'étais agressée dans l'adolescence, notamment quand j'étais étudiante, donc comme il y a sûrement beaucoup d'étudiantes qui nous écoutent. Et cette question, j'ai mis beaucoup de temps à la penser. Je l'ai d'abord énormément subie. Et puis en vieillissant, j'ai fini par me dire c'est pas possible. Il n'y a pas que moi qui peux être confrontée à ce problème. Je suis peut-être pas plus nulle que les autres. Et j'étais en tournage pour Arte. J'ai rencontré Édouard Durand à l'occasion de la création de la CIVISE. Et il a parlé du savoir expérientiel des victimes. Et ça a fait tic dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que je creuse. J'ai commencé à faire des entretiens avec des victimes. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Il y a vraiment un très, très gros sujet. Mmh. Peut-être tellement gros qu'en fait, on ne le voyait pas.
Mmh. Vous dites au début de votre livre que, pour expliquer votre démarche, que parler du coût, c'est parler donc de l'argent, parce que l'argent, c'est un langage universel. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'expliquer le poids et la gravité des violences sexuelles de façon à ce que tout le monde puisse se projeter ?
C'était aussi sûrement l'idée principale. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que ma vie avançait avec ce poids du traumatisme, la difficulté de l'expliquer, notamment à l'entourage, la difficulté d'être comprise. Pourtant, vulgariser les choses, c'est quand même mon boulot. Et je me suis dit, si moi j'ai du mal, on est mal barré.
Oui, c'est...
Donc je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, l'argent, ça parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'en testant un petit peu avec des amis, si je racontais, par exemple, que je faisais des cauchemars, les difficultés que j'avais dans mon quotidien, et on m'entendait pas. Mmh. Par contre, quand je disais, moi, je peux pas m'acheter d'appart parce qu'en fait, j'ai pas du tout économisé. Je me suis même endettée pour payer des soins. Là, tout de suite, on me disait, ah ouais, moi, je vais acheter un appart. Alors, moi, ça me faisait drôle parce que en fait c'est un moindre mal comparé à des symptômes invalidants au quotidien, mais si c'est la manière d'être entendu par la société, utilisons cette manière là puisque visiblement témoigner depuis des années ça suffit pas.
Oui, il y a quelque chose en plus, je trouve que quand on parle de violences sexuelles et sexistes, il y a souvent la question de l'absence de preuves. On parle de zone grise, de flou. Enfin, c'est un sujet globalement qui paraît difficile à saisir. Et le fait de l'aborder par l'argent, ça le rend aussi assez tangible, en fait, concret.
Quand on parle des preuves, la meilleure des preuves, c'est le psychisme et le corps des victimes aujourd'hui. Et j'ai toujours trouvé ça étrange, toute cette recherche de preuves à la Sherlock Holmes, qui était là, qui a vu quoi, est-ce qu'il y avait la moindre caméra. Alors qu'en fait, il suffit de regarder le quotidien d'une victime, et là, vous avez toutes les preuves. Quotidien d'une victime, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, peut-être faut le rappeler, c'est de l'hypervigilance, c'est rentrer chez soi et faire le tour et vider les placards. Moi, je l'ai fait pendant des années. Se réveiller au milieu de la nuit en hurlant, vérifier que sa porte allait bien fermée, avoir peur de rentrer de soirée, faire des cauchemars, avoir des troubles alimentaires. Enfin, la liste, elle est longue. Je pourrais pendant une heure continuer comme ça. Les symptômes, ils sont propres à chaque victime. Et ça, c'est une preuve qui est ancrée dans le corps. Et ces preuves-là, elles coûtent cher puisqu'il faut bien se soigner. Et donc, du coup, ça les matérialise. Puisque quand on dit aux gens, bah, regardez, en fait, je dépense tant d'argent pour essayer d'aller mieux, si je mentais, clairement, mes 20 000 euros, je les aurais mis ailleurs que là-dedans.
Alors, justement, parlons d'argent, parlant de ce coût, on pourra entrer dans le détail au fur et à mesure de l'émission, mais je pense que c'est pas mal de donner, comme vous l'avez fait un peu, déjà, des ordres de grandeur. Pour bien mettre le doigt dessus, vous donnez une estimation entre 40 et 70 milliards de dépenses publiques annuelles pour les violences sexuelles, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le détail de ce chiffre?
Alors, ça, c'est le chiffre de, pour la société, de déficit public en France, qui est un chiffre vraiment vu à la baisse. Hein. C'est-à-dire que si vraiment on fait des études très sérieuses, on est sûrement, selon les économistes, sur des chiffres beaucoup plus hauts. Il y a plusieurs postes de coût. Le premier poste de coût pour l'État, c'est la sécurité sociale. Alors même, et c'est tout le paradoxe, que les soins pour le psychotraumatisme donc des victimes ne sont pas remboursés. Mmh. Mais justement, comme les soins ne sont pas remboursés, les soins de l'esprit, le corps, il va parler. Donc, le corps va développer un certain nombre de pathologies lourdes, des pathologies chroniques. Donc, on va avoir une surconsommation de médecine spécialisée, de médecine générale, avec des pathologies qui sont chroniques, donc des pathologies à vie et des traitements à vie. Donc, on va prendre un cas assez commun, basique. On prend une femme, par exemple, victime à 18 ans. Elle va développer une endométriose. Donc toute sa vie, elle va être suivie pour ça. Elle va avoir des douleurs chroniques qu'on appelle des fibromyalgies. Toute sa vie, elle va être suivie pour ça. Ces douleurs vont être invalidantes, vous l'empêchez de travailler. Elle va être régulièrement en arrêt de travail. Qu'est-ce qui va payer tout ça? C'est l'État, c'est la sécurité sociale. Pendant ce temps-là, est-ce que cette femme va mieux? Non. Juste, on compense sa souffrance. Bon bah, elle peut pas aller bosser parce qu'elle a mal. On va lui filer des antidouleurs pour essayer de l'aider. Est-ce que ça la soigne? Non. Donc non seulement ça ne la soigne pas, mais ça coûte très cher à la société. Et puis il y a toutes les dépenses de justice qui sont finalement pas si chères que ça quand on sait le faible taux de condamnation. Et puis le plus gros poste de coût, ce sont les pertes de chances socio-professionnelles. C'est ce qui est le moins palpable possible, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à rendre compte dans le livre et ce qui m'a le plus bouleversée. C'est comment cet événement détermine toute la vie personnel, intime et socio-professionnel d'une personne. Et donc, ça peut être arrêter ses études, changer de ne pas arriver à supporter l'autorité dans un travail, donc se retrouver toujours dans des situations conflictuelles et in fine être au RSA ou être tout le temps au chômage ou avoir des douleurs qui rendent impossible de subir un 35 heures parce qu'il y a de la fatigue chronique. Enfin voilà, il y a beaucoup de cas comme ça et ça c'est ce qui coûte le plus cher. Et puis après il y a des choses qui sont plus violentes à comptabiliser mais que j'ai compté parce qu'il faut le faire, sont notamment le suicide. Une personne qui se suicide, ça coûte très cher à la société puisque la société a investi. C'est un peu violent de le dire comme ça, mais dans cette personne. Et bon, voilà, si Bruno Le Maire entend cet argument, puisqu'aujourd'hui on parle d'économie, puisque visiblement l'autre argument, qui est la question morale et la question de la dignité, n'est pas entendu. Donc bah, peut-être qu'en disant que quelqu'un qui suicide ça coûte cher, on sera entendu. Moi j'en arrive à ce constat aujourd'hui.
Un terrible constat. Et il y a une pensée commune, justement, aussi, c'est qu'une fois que les violences sexuelles sont advenues, une fois que les victimes ont subi ça, c'est fini, c'est du passé, et donc pas besoin de s'en préoccuper. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de politique publique pour la prise en charge des victimes, pour vous ?
Bah, il n'y a pas de politique publique, d'abord, parce que les victimes, c'est une femme politique qui m'a dit ça, très justement, Laurence Rossignol, elle m'a dit... Elle m'a dit, les victimes ne sont pas un lobby. Ne sont pas à l'Assemblée. Effectivement, quand on est une victime, on va pas bien. Quand on va pas bien, il est difficile d'aller faire du lobbying politique à l'Assemblée, de se constituer. Alors ça commence, mieux, il y a, des gens... Mais à quel prix ces gens font ça? Je suis absolument admirative des gens qui sont dans ce combat. Mais évidemment, quand on va pas très bien, c'est extrêmement difficile de se défendre. Donc c'est la première... Je pense que tout simplement, il y a une invisibilisation au sein même des pouvoirs publics. Et en fait, on le voit dans les commissions d'enquête. Bon, là, je vais faire un peu de politique publique, mais c'est important.
C'est important.
Et on le voit dans les commissions d'enquête qui existent sur les violences sexuelles. Tout part de buzz médiatique. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui, on a une commission d'enquête sur la soumission chimique parce qu'on a une députée, Sandrine Josso, qui a subi elle-même une soumission chimique de la part d'un député. C'est très bien. Il y a une commission d'enquête des violences sexuelles dans le cinéma parce que Judith Godrèche a pris la parole. Mais tout part, en fait, d'événements comme ça médiatiques, alors même que j'espère qu'il y aura une commission d'enquête sur les conséquences et les coûts des violences sexuelles pour tout le monde. Pas simplement dans le cinéma ou dans le sport, puisque les violences sexuelles concernent toutes les sphères, en premier lieu la sphère familiale. Et la sphère familiale, évidemment, il n'y a pas une star de la famille qui va dire « Oh, regardez, du coup, on va ouvrir une commission d'enquête. » Voilà. Et en fait, c'est vraiment... Quand on regarde où se jouent les violences sexuelles, ce sont d'abord dans la famille. Et là, on remet en cause tous les fondements de la société.
Après, justement, vous parlez... Effectivement, il n'y a pas de star de la famille. En revanche, le livre de Camille Kouchner, oui, La famille agrandée, où elle dénonce l'inceste subi... par son frère, ça a provoqué, ça a quand même créé une onde de choc dans la société et il y a eu des choses qui se sont passées politiquement après ce livre.
Oui, mais encore une fois, parce que ça concernait une personnalité publique, connue, reconnue, avec du pouvoir. Et oui, ça a créé la création de la Civise, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? La Civise, ce sont 82 préconisations. Est-ce que ces préconisations ont été appliquées en projet de loi? Non.
Non. On aura l'occasion d'y revenir à la Civise. Virginie Crécy, vous restez avec nous. On va pendant quelques minutes se replonger dans l'Antiquité. Je me tourne vers Chloé. Tu nous racontes depuis le début de la saison, tu te replonges dans l'Antiquité, ces figures bien connues. Et ce soir, tu voulais nous parler de Méduse.
Ouais, et pour revenir du coup sur le thème de la journée, qui était vraiment « Quel est le prix des larmes ?» Donc, comme vous le dites, Virginie Crécy ou Crécy, je ne sais pas comment
Crécy.
On dit, Crécy dans votre ouvrage. Donc, non seulement avoir été violée ne rapporte rien, mais coûte très cher, car les victimes de violences sexuelles le sont deux fois, lors de l'agression, mais aussi après. Et comme vous le soulignez, on ne peut pas aller mieux dans une société qui ne vous entend pas. Et au passage, la société non plus ne peut pas aller mieux. Deux fois victime, c'est dans la mythologie le cas de Méduse. Méduse, c'est l'un des personnages les plus représentés dans l'art et l'un des plus anciens mythes toujours vivaces aujourd'hui. Il nous fascine depuis plus de 2800 ans. Laissons Ovide nous raconter ce mythe. Méduse, c'est l'une des trois sœurs Gorgones, la seule des trois qui est mortelle. C'est une très belle jeune fille, mais elle a la malchance d'être violée par Poséidon dans un temple dédié à la déesse Athéna, qui la punit en la transformant en monstre hideuse, qui à son tour transforme en pierre tous ceux qui croisent son regard. Mais c'est surtout par le mythe de Persée que Méduse est connue. Persée, c'est un héros qui part en quête justement pour amener la tête de Méduse. Aidé par Athéna, il utilise un bouclier en bronze qui réfléchit Méduse pour ne pas rencontrer directement son regard. Ça lui permet de la décapiter et de se servir de sa tête tranchée pour pétrifier ses ennemis. Et c'est avec ce récit qui est centré sur un héros masculin que Méduse est devenue synonyme de monstruosité. Car dans le mythe de Persée, Méduse n'est pas une victime, deux fois victime, violée puis punie, mais un monstre à éliminer. En fait, cette ambivalence entre le monstre et la figure féminine est présente dès l'Antiquité. La bonne fortune de ce mythe s'explique en grande partie par la fascination masculine envers une sexualité féminine forcément dangereuse, même lorsqu'elle est subie. Il n'y a qu'à taper les mots-clés « méduse » et « mythologie » sur Internet. Les images qui apparaissent ne montrent pas un monstre repoussant, mais plutôt un archétype de la femme fatale, sexy, fascinante, dangereuse. Mais dans les années 70, les féministes se réapproprient le mythe. Hélène Cixous, en particulier, inverse la tendance avec un essai célèbre, Le rire de Méduse. Elle transforme le personnage en une icône féministe. Elle fait de Méduse une représentante de la difficulté des femmes à accéder à une parole publique, à se faire entendre. L'écriture est pour vous. Vous êtes pour vous. Votre corps est à vous. Prenez-le, écrit-elle. Et c'est aussi votre projet avec cet ouvrage, faire en sorte que la vérité éclate, faire en sorte que les victimes se reconnaissent entre elles d'une part, mais aussi qu'elles soient reconnues publiquement d'autre part, qu'on les regarde enfin collectivement en face. Parce que comme le dit Hélène Cixous, il suffit qu'on regarde la méduse en face pour la voir et elle n'est pas mortelle, elle est belle et elle rit. Alors pourquoi faudrait-il que les puissants se protègent du regard des victimes, de leur colère, de leur demande de justice? Car enfin, qui sont les monstres?
Excellente question pour clore cette chronique. Merci beaucoup Chloé. On peut retrouver toutes tes chroniques sur le site de l'émission et dans la newsletter Dynamite, dont vous pourrez retrouver les infos sur la page de l'épisode.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Comme on le disait, les violences sexuelles, donc ça a un coût pour les victimes. Et en fait, un des premiers postes de dépense pour ces victimes, c'est la santé mentale et les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles quand la personne a la possibilité de se faire prendre en charge, évidemment. Ce que vous dites, Virginie Crécy, c'est que le viol, l'agression sexuelle, l'inceste, ce sont des rencontres avec le réel de la mort. C'est quelque chose d'inimaginable pour qui ne l'a pas vécu. Et ça a donc des conséquences sur le corps et le psychisme des victimes, des conséquences sur leur vie. Il y a un terme qui s'est banalisé auprès du grand public, notamment après la guerre du Vietnam, c'est le syndrome post-traumatique, PTSD. PTSD, je le dis à la française, mais c'est PTSD en fait. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour une victime de violence sexuelle?
Alors, pour rebondir sur cette excellente chronique, on a l'impression, en tout cas, je l'ai beaucoup vécu comme ça, d'être une méduse, d'être un monstre. En fait, c'est nous le monstre. Alors qu'en fait, c'est un monstre qui nous a agressés. Il y a un renversement de la culpabilité, qui est un mouvement psychique, énergétique, je ne sais pas quel autre terme utiliser, extrêmement fort, puisque l'agresseur ne porte pas sa culpabilité, il passe à l'acte, et cette culpabilité, il faut bien que quelqu'un la porte. Et les victimes la portent de mille et une façons, ce qui va développer le syndrome de stress post-traumatique, parce qu'elles ont été confrontées à ce moment de passage à l'acte. Par moment, on compare les agressions avec le deuil, avec des accidents, des catastrophes naturelles. Mais ce qui est particulier dans le viol, c'est l'intentionnalité de l'agresseur. Et quand on a été agressé, on a fait face à cette intentionnalité de quelqu'un qui a eu pour objectif, en son âme et conscience, de nous détruire. Et c'est là où il y a une confrontation avec la mort. Donc effectivement, quand on est un enfant, une adolescente ou une femme, pas une seule seconde, on peut s'imaginer qu'on puisse être confronté aussi subitement à la mort. Comme ça, dans son quotidien. Tous les récits qu'on entend, ce sont des histoires du quotidien qui ne décrivent pas l'horreur de la guerre du Vietnam. Et les violences sexuelles existaient bien avant toutes ces guerres médiatisées. Après, les symptômes, ils sont assez criants. C'est comme je disais tout à l'heure, cette hypervigilance, ça peut être le fait de sursauter tout le temps, beaucoup d'angoisse. Mais à chaque fois, ce qu'on retrouve, ce que les psychologues notent, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Et je pense qu'il faut vraiment vulgariser ces termes pour qu'ils rentrent dans la tête de tout le monde et qu'ils ne concernent pas, que ça ne concerne pas que les personnes victimes. Pour que tout le monde comprenne ce que c'est une personne dissociée.
Donc qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? La dissociation, c'est ce qui vient après la sidération. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à cet acte impensable, puisque vous n'imaginez pas qu'une chose pareille puisse vous arriver, vous avez plusieurs solutions. Votre cerveau animal a plusieurs solutions, c'est-à-dire fuir, se débattre, mais généralement, c'est pas possible. Mmh. On a tellement peur que qu'est-ce qu'on fait ? On se fige. C'est ce qu'on appelle la sidération. Mmh. Et là, les psychiatres, depuis les années 90, ont mis en exergue des mouvements neurobiologiques dans le cerveau, que cette sidération, à terme, quand elle n'est pas traitée, quand elle n'est pas soignée, elle va créer des symptômes dissociatifs, donc de la dissociation. Tout simplement le fait de ne pas être là. Vous parlez à quelqu'un et cette personne, elle ne vous écoute pas. Et ça, en fait, ça va être quelque chose qui va être reproché par l'entourage à la victime. Donc non seulement la victime paye, mais on va lui reprocher ses symptômes. Donc moi, pour parler de ça un petit peu au quidam, j'aime bien comparer avec quelqu'un qui a la jambe dans le plâtre. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a la jambe dans le plâtre « Ouais, t'abuses, tu montes pas les escaliers ». C'est à peu près la même chose. Les syndromes, la dissociation, c'est ça. Et donc, il va y avoir tout un tas de conduites dissociantes dans le but de s'anesthésier pour ne pas penser au trauma, donc notamment les addictions.
Donc, on vous reproche la dissociation, on vous reproche aussi, même dès le départ, cette sidération, c'est la fameuse formule. Non, mais de toute façon, elle ne s'est pas débattue.
Oui, il faudrait passer à autre chose parce qu'il y a quand même un nombre incalculable d'études qui existent sur cette question. C'est vraiment pas nouveau. Alors, souvent, on me dit oui, mais c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau.
Ouais, c'est vraiment pas
nouveau. Enfin, voilà, les études sont unanimes sur cette question. Cette question a été étudiée en faisant des examens, des ECG, des IRM. Mm-hmm. Enfin, voilà. Et alors, moi, ce que je fais souvent, pour faire une petite démo, ça peut donner des idées à quelqu'un. Ceux qui ne me voient pas, je fais 45 kilos et 1m50. Donc, quand je parle de ça à des amis, notamment hommes, je leur explique la sidération, qu'est-ce que c'est, puis je vois qu'ils ne m'écoutent pas. Du coup, ça peut être un petit peu agressif, hein, mais je me lève brutalement et je leur fais une clé... voilà. Sur le coup. Et il bouge pas, je dis bah quoi tu bouges pas, mais moi je fais 40 kilos, je vais rien te faire. Tu te débats pas. Bah voilà, c'est ça la sidération. C'est à dire que même si moi qui fais 40 kilos je vais t'agresser, comme tu t'y attends pas, parce qu'on est proche, tu peux plus bouger. Donc c'est pas une question de taille, c'est pas une question de poids. C'est aussi pour ça que des hommes aussi se font agresser, puisqu'ils sont subis exactement à la même sidération. Donc qu'on fasse 90 kilos ou 45, on sidère de la même manière.
C'est un rappel quand même assez salutaire. Voilà. Vous avez fait beaucoup pour, dans cette enquête, beaucoup d'entretiens avec beaucoup de victimes qui vous ont exposé leur cheminement pour se réparer. Quelles difficultés elles rencontrent ces personnes pour se réparer psychiquement ?
Alors d'abord, le mur qui est l'entourage, hein, je sais que c'est un peu tabou, hein, je tape pas mal sur l'entourage, mais... voilà, j'ai pas rencontré une seule victime qui a été vraiment soutenue par son entourage. Donc, pour dire que c'est la première chose à faire, que c'est gratuit et que tout le monde peut le faire. Donc, écouter les gens, ne pas les juger, ce genre de choses. Et puis, l'absence totale de parcours de soins. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on souffre d'un syndrome de stress post-traumatique suite à des violences sexuelles, on doit s'auto-diagnostiquer et aller voir son médecin et lui dire « je crois que je souffre de ceci ». Donc déjà, avoir fait un certain nombre de recherches. Alors même que le tableau clinique, il est criant. Donc, il faut d'abord que les professionnels de santé repèrent, fassent du repérage, du dépistage, pour déjà, quand vous êtes malade, c'est quand même bien la seule maladie où c'est vous qui devez dire au médecin que vous êtes malade. Et puis, ensuite, du coup, il n'y a pas de parcours de soins. Qu'est-ce que vous faites ? C'est la jungle. Donc, il faut trouver un psy. Un psy, c'est tout et n'importe quoi. Un psychiatre, psychologue, psychothérapeute,
psychopraticien.
Ne consultez pas de psychopraticien. Mais donc là, vous êtes obligé de rentrer dans ce tunnel. On ne parle pas du judiciaire, là, on parle que du côté psy. Hein. Vous êtes obligé de rentrer là-dedans et de vous renseigner, d'enquêter, en fait. Et je me suis rendu compte, moi, que enquêter, c'était mon métier et que j'étais perdue. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, si moi je suis perdue, mais comment font les gens ? Et finalement, moi, j'ai eu accès à des thérapies efficaces. J'ai eu accès à ce qu'on appelle la résilience. Parce que j'ai aussi une formation qui m'a permis d'accéder à ça, puisque je sais chercher de l'information. Mais est-ce qu'il faut être flic ou journaliste pour accéder à cette information aujourd'hui ? Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'est pour donner un petit peu des pistes pour que les victimes puissent s'orienter, puisque moi, j'ai quand même perdu 10 ans de ma vie, 10 ans d'errance médicale avant d'être correctement soignée.
Et parfois, il y a des rencontres qui vous sauvent. Vous, Virginie, donc c'est un médecin généraliste qui vous a permis d'avancer. C'est ce que vous racontez dans votre ouvrage.
Oui, en fait, on est vraiment soumise au destin, au hasard, vu qu'il n'y a absolument rien qui n'est fait. Donc oui, moi, pour ma part, j'ai consulté beaucoup de médecins traitants. Je changeais tout le temps, vu qu'on... Je disais toujours moi, même tableau clinique, on me disait rien. On me disait bah vous avez rien ou c'est le stress des examens. Alors j'ai jamais stressé pour les examens, on m'écoutait pas. Et puis un jour, je consulte une médecin généraliste qui était à côté de mon travail et en fait elle m'ausculte et je sursaute tout simplement parce que dès qu'on me touche je sursaute. Et elle comprend tout de suite. Cette médecin avait été formée. Elle ne me dit rien, on s'assoit et me dit « Avez-vous été victime de violences sexuelles ?» Je lui dis oui. Et c'était la première fois qu'un professionnel de santé me posait la question. J'avais dû en voir une quarantaine avant. Et elle me donne une feuille avec les coordonnées d'une thérapeute spécialisée. Je me rappellerai toute ma vie. Elle me dit « Vous sortez d'ici, vous appelez cette personne, vous lui laissez un message vocal avec vos coordonnées, vous ne rangez pas cette feuille dans votre sac. » Parce qu'en fait, elle savait très bien les mécanismes qui font que le trauma, on ne veut pas le voir quand on est victime. Donc, si elle m'avait pas dit ça, sûrement que je l'aurais rangé dans mon sac et que je l'aurais peut-être pas rappelé jusqu'à la prochaine fois où j'allais mal et j'aurais perdu cette feuille. Donc cette femme, donc je me souviens ni la tête ni le nom, a complètement bouleversé ma vie en fait. Je la remercie si elle nous écoute. Mais pour là, je parle vraiment aux professionnels de santé de se rendre compte comment un simple geste de poser une question aussi simple et donner une feuille peut changer la vie de quelqu'un.
Oui, justement. Enfin, ce que ça montre, cette histoire, c'est l'importance de former le personnel soignant. Parce que vous dites que les étudiants en médecine maintenant ont une formation obligatoire sur les conséquences immédiates des violences sexuelles. Mais en revanche, sur la prise en charge à long terme, les, enfin, voilà, la reconnaissance des signes, des douleurs chroniques, etc., il n'y a rien.
Bah, quand vous êtes violée, vous n'allez pas voir votre médecin généraliste le lendemain matin sans avoir pris de douche. Enfin, ça n'existe pas, parce que déjà, vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous avec votre médecin généraliste, oui, donc ce n'est pas possible. Et parce que vous êtes dans cet état de sidération, dans cet état de choc, il vous faut du temps pour comprendre ce qui vous est arrivé. Votre priorité, c'est souvent d'aller porter plainte, donc ça ne fait pas sens. Les victimes, elles vont voir les professionnels de santé des années après. Et c'est à ça qu'il faut former les médecins, au dépistage. Et le dépistage, il est très simple. Je reprends les travaux de Gilles Lazimi, qui est un médecin généraliste qui est aussi membre du HCE, c'est le Haut Conseil à l'égalité, qui milite très fermement pour le dépistage, c'est poser la question. Quand vous allez chez le médecin, on vous fait un interrogatoire sur vos antécédents. Donc on vous demande, est-ce que vous avez été opéré? Généralement, vous dites oui, des dents de sagesse. Quel est l'impact sur votre vie d'avoir été opéré des dents de sagesse? Franchement, pas grand-chose. Par contre, l'impact des violences sexuelles. Donc moi, dès que je vais voir un médecin, il me dit vos antécédents, je lui dis. Mm-mm. Une fois sur deux, il est gêné.
Oui. Mm. Oui, il n'y a vraiment pas de formation pour accueillir cette parole déjà et ne pas être gêné. En fait, c'est un tabou sur un tabou, quoi.
Et toute cette méconnaissance, elle peut être dramatique parce que ça peut aussi mener à des... Enfin, vous avez parlé d'errance médicale, donc des mauvais diagnostics, la prescription de médicaments inutiles. Et tout ça, ça coûte de l'argent aux victimes.
Alors, ça coûte de l'argent aux victimes et à la société. Cette prescription de médicaments, c'est pas forcément qu'elle est inutile, puisque dans des cas où vraiment on a des symptômes invalidants, les médicaments sont une béquille. Et je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Je reprends, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai interviewé un certain nombre de spécialistes et je rapporte leurs propos. C'est que le médicament est, encore une fois, une béquille, mais pas la pilule magique. Donc donner à quelqu'un des anxiolytiques et des antidépresseurs sans le traiter sur le fond, ça sert à rien.
Oui.
Ça va juste le maintenir dans un statu quo.
Ça colmate une brèche, mais ça...
Voilà. Donc ça va le maintenir, mais... Est-ce que ça va le soigner? Non. Mmh. Et ce qui va soigner, ce sont des thérapies de fond qui sont recommandées. Et c'est là où, quand j'ai fait mon enquête, j'ai été assez choquée. C'est que ces thérapies, elles sont recommandées depuis des années par les instances de l'État, par la Haute Autorité de Santé. Ouais. Donc la Haute Autorité de Santé dit syndrome de stress post-traumatique, on fait de la TCC, c'est de la thérapie, une forme de thérapie ou de l'EMDR, donc c'est une thérapie avec des mouvements des yeux, qui sont deux thérapies qui ont été reconnues efficaces, mais ces thérapies ne sont pas remboursées. Mmh. Moi, j'ai moi-même été hospitalisée en service de psychiatrie avec un médecin qui me dit « Écoutez, je vous prescris rien, vous n'êtes pas dépressive, vous avez un stress post-trauma. » Je dis « Oui, je sais, merci. » Et il me dit « Ce qu'il faut faire, c'est de l'EMDR. » Je dis « Bah oui, mais en fait, moi, j'ai pas 90 euros par semaine à mettre là-dedans. » Et j'ai plus le choix. À un moment donné, j'allais tellement mal qu'il a fallu. Donc en fait, là, comment on les trouve, ces 90 euros? On se réoriente professionnellement, on demande à ses proches, on part plus en vacances, on n'a plus de loisirs, on ne fait pas de sport. Alors même que c'est important, quand on a été victime, d'avoir une vie normale, de continuer à avoir des amis, d'aller faire du sport. Mais on ne peut pas faire les deux. Moi, quand j'étais étudiante, c'est ce que je raconte souvent aux gens pour qu'ils se rendent compte, je ne pouvais pas payer et ma psy, et les soirées, le cinéma, les restos. Donc en fait, tout le monde pensait que j'étais un oiseau solitaire caché dans ma chambre, juste que j'avais pas de sous.
Et ça n'aide pas du tout à la guérison.
Et non.
Vraiment pas. Et donc il y a aussi une véritable incompréhension par un manque de formation, encore une fois, de ce qui est efficace ou non chez les patients, vous le disiez. En fait, la brèche, c'est que il y a beaucoup de patients et de victimes qui, parce que c'est remboursé par la sécurité sociale, vont chez le psychiatre et donc du coup se voient prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou d'autres choses et qui pendant 10 ans se font renouveler une ordonnance et ça marche en surface, mais en fait au bout d'un moment ça finit systématiquement par bloquer. Ça, c'est remboursé, mais les psychothérapies, ça n'est pas remboursé. C'est ça que, c'est là que qu'existe le non-sens complet de la société, de le système, du système dans lequel on vit.
Oui, parce qu'on veut que tout aille vite. Évidemment, le stress post-trauma, c'est une pathologie lourde. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la tête des gens. C'est pas une petite maladie à la légère. D'ailleurs, c'est pas remboursé. Quand vous avez un stress post-trauma, vous pouvez pas être prise en charge par le dispositif Mon Psy. Qui rembourse un certain nombre de séances.
10 séances, je crois.
10 séances parce qu'il faut que vous ayez une pathologie légère, pas une pathologie lourde. C'est comme, c'est la présidente de MDR France qui me disait, faire de l'EMDR, c'est comme pour un chirurgien opérer à cœur ouvert. C'est pas rien.
Ouais.
Et donc, ça prend du temps, il faut y aller doucement. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, des fois on voit des reportages, on voit une victime qui est là, bon bah on lui fait 3 mouvements avec les yeux, en 2 secondes elle a oublié tout son trauma. C'est pas comme ça que ça se passe, ça demande du temps. Souvent au moins 1 année, donc 1 année de MDR c'est à peu près 4000 euros.
Il faut les avoir, les
donc, il faut les avoir, oui.
Oui, et ce que vous disiez également sur cet argent, enfin en fait ce gouffre financier que représentent les violences sexuelles, et la quête d'information aussi, juste pour être bien diagnostiquée, dans ce manque d'information, il y a notamment les dispositifs auxquels ont droit les victimes, et notamment l'affection longue durée, qui peut être, dans certains cas... une ressource pour des victimes. Et ça, voilà, on ne le sait pas. Et...
Non, moi, je l'ai découvert en faisant mon enquête. Donc, du coup, j'ai demandé à mon médecin, est-ce que j'ai le droit ? Il m'a dit, bah oui. Mais en fait, normalement, et ça, c'est Édouard Durand qui m'a fait la remarque, quand vous avez une ALD, donc une affection longue durée, bah, c'est pas à vous de connaître tous les registres ALD de la Sécurité sociale en tant que citoyen.
Non.
C'est votre médecin qui vous dit, ah, bah, vous avez telle pathologie, je fais une demande ALD. Là, quand vous êtes victime de violences sexuelles, c'est à vous de dire, ah, au fait, j'ai le droit à ça. Donc, c'est important de le dire, toute personne ayant été victime mineure. L'ALD, ouais. C'est que pour les victimes mineures, ont le droit à une ALD, c'est-à-dire que tous les soins remboursés par la Sécurité sociale relatifs à ce trauma vont être pris en charge à 100%. Donc, le médecin généraliste, le psychiatre, ça peut être le kiné, ça peut être la dermato suivant les problèmes, ça peut être tout un tas de médecins, mais encore une fois...
Donc, c'est énorme.
C'est... Oui et non. C'est-à-dire que ça ne concerne pas le principal poste de dépense des victimes qui est le psychologue. Ou le psychiatre qui fait de l'EMDR. Parce qu'il y a des psychiatres qui font de l'EMDR. Mais du coup, qui prennent 180 euros la séance.
Est-ce que c'est remboursé ?
Bah, du coup, le psychiatre, vous êtes remboursé sur la base sécu.
Ouais.
Donc et c'est après, une quarantaine d'euros.
Une partie, ouais.
Donc il reste quand même 100 euros à sortir de sa poche.
Yes, super. Oui. Quand vous demandez aux personnes que vous avez interrogées sur toutes les dépenses qu'elles ont dû faire pour essayer d'aller mieux après avoir subi des violences sexuelles, vous vous dites dans votre livre et dans d'autres interviews aussi que vous avez observé une véritable douleur parce que en fait c'est elle l'avait pas vue avant.
Non, mais moi la première quand j'ai proposé à mon éditeur chez Grasset ce projet, il me dit mais vous combien ça vous a coûté ? Mais là j'étais moi, combien ça m'a coûté ? Ça faisait 2 ans que je travaillais sur la question. Je ne m'étais pas posé la question.
C'est douloureux comme question.
Parce que, encore une fois, comme on le dit depuis le début de cette émission, ça rend palpable, ça matérialise. J'ai commencé à faire les comptes. Je me suis dit, oh, 10 000, 15 000, 20 000. Après, quand je rajoute tout l'argent qu'on m'a donné, ce qui est assez humiliant aussi. Quand on va demander à des amis, à son copain, sa meilleure copine, je me suis quand même endettée auprès de pas mal de gens. Je les remercie, mais... pas de gaieté de cœur. Quand on additionne tout ça, ça monte très très haut. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez 100% des victimes que j'ai rencontrées. Parce que nous, on faisait les postes de coups de manière très méticuleuse. Moi, j'ai vraiment décidé de traiter le sujet de manière chirurgicale avec le coup. Donc, j'étais là, j'avais mon petit calepin. Bon, alors, la santé, vous avez fait quoi ? Telle année ? Et on faisait les calculs. Donc, les gens, ils disent, bon, bah moi, le psy, c'était 70 euros. J'en ai fait de telle année à telle année. Après, j'ai fait une pause. Puis, on avait la calculette et on faisait les comptes. 10 000, 15 000, 20 000. Et en fait, souvent, les gens, ils me disaient stop. Et des fois, je leur disais bon, parce que je voulais continuer sur d'autres postes. Je disais, bon, envoyez-moi un texto quand vous serez prêt.
Oui, c'est complètement angoissant.
Parce que c'est terrifiant. Et en fait, je me rappelle d'une victime à la fin, m'a dit, mais en fait, j'aurais pu m'acheter une maison de campagne.
Ouais.
En fait, on s'imagine tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Un peu comme quand on s'imagine gagner au loto, mais dans l'autre sens.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'est très violent.
Virginie Crécy, on va exorciser un petit peu cette violence avec un peu de musique. Pour cette dernière émission avant les vacances, j'avais un peu envie de me faire plaisir. Alors, le nom du groupe est déjà plein de promesses. Camion Bip Bip avec leur banger Club Ouin Ouin sur Radio Campus Paris.
On peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire, alors vas-y comme ça qu'on habite dans la nouvelle matrice.
On peut dire bonjour à sa maman parce que moi en vrai en fait je suis respectée.
Je comprends pas pourquoi les femmes elles veulent pas sortir avec moi. Je suis gentille.
Moi je veux bien parler de féminisme mais à chaque fois c'est la même chose, tu te mets en colère et je me sens toute agressée.
Tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air? La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président du club ouin ouin.
Ouin ouin.
Devant n'importe quoi, pour te noyer dans un verre d'eau, là t'es le roi. Tu bombes le torse devant les copains, mais au fond t'es un bébé, un gros ouin ouin.
Ouin ouin.
Vapeur sur tes joues rouges qui fument, toujours en train de quémander mon hume. T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune. La seule chose que tu chopperas, c'est en rhume.
Ouin, ouin.
Nous Irlande, on dirait mon père, pseudo alpha, le grand empereur du rien. Quand bébé à maman veut toujours téter le sein.
Petit polisson, tu n'as pas retenu la leçon. Si personne ne veut t'écouter, alors pose-toi les bonnes questions. Insulter et parler fort ne t'amèneront nulle part. Une petite faveur pour moi, vas-y pleure, tu adores ça.
Ouin, ouin.
Queer et vénère, c'était Camion Bip Bip. Je les ai découvertes l'an dernier à l'occasion du festival Women on Stage qui met à l'honneur les filles qui font de la musique. Cette année, c'est justement ce week-end, les 8 et 9 juin, à Petit Bain, à Paris.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et on est toujours avec Virginie Crécy, journaliste et autrice de l'ouvrage Le prix des larmes, le coût caché des violences sexuelles. Alors Virginie Crécy, on connaît les chiffres, 1% des plaintes qui aboutissent en condamnation pour le violeur. Parlons un peu de la justice. Si la victime décide de porter plainte, elle entre donc dans un processus lourd, long et très coûteux. On le rappelle donc, une procédure de viol, ça coûte en moyenne 10 600 euros. Et pour un résultat qui est très incertain, pourquoi la justice a tant de mal à traiter les affaires de violences sexuelles ?
Oula, parce que la justice est... question très, très complexe. Tout simplement parce que la justice est à l'image de la société.
Oui.
Et que les gens ont une image un peu épinale de la justice. Mais la justice, ce sont d'abord des gens, des hommes, des femmes qui, comme vous et moi, grandissent dans la même société et prennent des décisions à l'image de la société. Et il suffit de regarder très concrètement les décisions en cas de condamnation dans la presse quotidienne régionale. Vous regardez, vous achetez n'importe quel journaux qui traite des questions de justice au niveau local. Bon, bah, le grand-père reconnu coupable d'inceste sur ses deux petites filles, 2 ans avec sursis. Le mari violent, inceste avec la petite, violence physique, 2 mois ferme, c'est que ça. Les décisions, alors il y a le code pénal et il y a l'application du code pénal. Et voilà, peut-être que dans 10, 20, il faut plusieurs générations, je pense, les décisions de justice vont bouger. Mais ce que mon constat, c'est qu'on ne peut pas attendre que la justice bouge pour s'occuper des victimes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on on s'occupe au niveau de la justice que des agresseurs. Ce qui intéresse la justice, et c'est comme ça que la justice fonctionne, c'est pas pour la critiquer, c'est son fonctionnement. C'est de faire la justice pénale, le rôle de la justice pénale, c'est de condamner un agresseur. C'est pas de prendre soin d'une victime. Mmh. Donc comment prenons soin des victimes, sachant qu'on n'arrive pas encore pour le moment, on espère qu'on y arrivera à condamner les agresseurs. Mais on peut peut-être essayer de décorréler ces questions.
Mmh. Oui, vous dites notamment, ça illustre assez bien, vous parlez du cas Nordal-Lelandais, qui a été condamné pour divers crimes à perpétuité une première fois, et qui ensuite a été condamné pour attouchement, agression, je ne sais plus quel est le terme exact, sur sa cousine mineure, à une peine courte. Sachant que voilà, dans l'esprit de tout le monde, de toute façon, il est déjà en prison, enfin, voilà, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, pour cette victime-là, sa compensation a été faible.
Cette victime-là a reçu, donc a été reconnue victime par la justice, à peu près, je crois, de mémoire, c'est 5000 euros de dommages et intérêts. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'excellent spectacle de Tristan Lopin qui parle des violences sexuelles qu'il a subies, qui a été en justice. Et il dit qu'il a été reconnu victime par la justice, son agresseur a été condamné, il a reçu 5000 euros de dommages et intérêts. Et il le dit très justement, c'est le prix d'un aspirateur Dyson. Mmh. Donc quand on dit que les victimes se font de l'argent en portant plainte, regardons concrètement ce qu'on touche. C'est-à-dire, même quand on est reconnu victime, ce qui est quand même extrêmement rare, on touche rien. Ça rembourse même pas les frais d'avocat, les déplacements, et ne parlons même pas du parcours de soins. Mmh.
Oui, et c'est pareil, encore une fois, enfin voilà, c'est sans, on a longuement parlé des frais médicaux, les avocats, c'est juste faramineux, c'est de l'endettement pour on l'a dit, des procédures qui ont beaucoup de chances de ne pas aboutir, et les victimes dans ce processus très compliqué manquent aussi beaucoup d'informations. Vous parlez du capital, pardon, j'ai perdu le
Le procédural. Titre,
procédural, voilà.
Merci. Ouais, c'est un peu de socio. On fait des politiques publiques, de la socio, c'est l'éclate.
C'est pluridisciplinaire.
Oui, alors le capital procédural, c'est la manière dont on a de faire face à la justice. En fait, ce sont des sociologues qui reprennent Bourdieu. Évidemment, quand on a fait des études, quand on sait bien s'exprimer, quand on sait bien trier ses papiers, etc., c'est plus facile d'accéder à la justice. Et même quand on a fait tout ça, mais quand on a des ressources, dans la question des violences sexuelles, il y a la charge émotionnelle qui n'est pas prise en compte. C'est-à-dire, on peut avoir fait des études de droit, très bien connaître une procédure judiciaire, venir d'une famille très riche, avoir tout ce qu'il faut. Mais en fait, vous ne voulez pas voir votre dossier, parce que ça vous rappelle des choses terrifiantes. Donc, vous êtes obligé d'être accompagné par un professionnel de justice. Et en fait, soit vous avez le droit à l'aide juridictionnelle. Alors souvent, les politiques disent « Ah oui, mais il y a l'aide juridictionnelle ». Alors, c'est pareil, il y a ce qui existe et ce qui est appliqué. Mmh. Oui, les victimes ont le droit, sans condition de ressources, de viol, à l'aide juridictionnelle. Mais très, très peu d'avocats pratiquent l'aide juridictionnelle qui ne leur apporte rien. Et encore une fois, ce sont des procédures extrêmement longues qui prennent des dizaines d'années par moment. L'avocat, quand il est à l'aide juridictionnelle, il va être payé qu'à la fin. Mmh. Donc, est-ce qu'un avocat, même de bonne foi, peut-il faire tourner un cabinet quand il est payé 10 ans après avoir commencé à travailler sur un dossier ? Donc, même les avocats qui veulent travailler à l'AJ, qui veulent ne pas faire payer les victimes, à la fin, ils n'ont plus le choix. Donc, le système, il ne fonctionne pas.
Il y a quelque chose qui est important à souligner quand, pour les victimes qui se lancent dans une procédure judiciaire comme ça, c'est qu'à partir du moment où la victime peut prouver qu'elle a subi une agression, même si personne n'a été condamné, elle a droit à une indemnité de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, c'est ce dont vous parlez dans votre ouvrage, et c'est quelque chose qui est très peu connu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Alors la CIVI, c'est pareil, encore quelque chose que j'ai découvert en faisant cette enquête, c'est le tribunal civil. Donc, quand vous portez plainte contre une personne, contre l'agresseur. Et la procédure pénale, l'objectif de la procédure pénale, c'est de protéger la société. C'est pas de vous vous reconnaître comme victime. Vous, de toute façon, c'est trop tard. Vous alertez, entre guillemets, la société en disant « un tel m'a fait ça » et le juge d'instruction mène son enquête dans le but de protéger la société. Bon. Admettons que vous arrivez en cour d'assises et que vous gagnez, vous êtes reconnu, l'agresseur est reconnu coupable. Là, vous pouvez, on appelle ça liquider le préjudice, c'est-à-dire avoir des dommages à intérêt. En cas de viol, c'est généralement 20 000 euros. Donc là, l'avocat peut dire, bon bah ok, le président du tribunal dit on va liquider à 25 000 euros, l'avocat, d'accord, pas d'accord. Sauf que, et ça très peu de victimes le savent, vous pouvez saisir la CIVI et aller au tribunal civil et demander à être examiné par un médecin psychiatre expert, avec un avocat. Et donc ce médecin, lui, va établir, c'est un petit peu technique, on fait du droit après la socio et politique publique.
Mais c'est d'utilité publique en fait, parce que voilà. Les gens ne le savent pas.
Et là, donc, la CIVI va établir le premium doloris, donc en latin le prix de la douleur, sur des postes très précis. Par exemple, les répercussions socio-professionnelles. Mmh. Donc là, vous allez dire, apporter des preuves. Moi, j'ai arrêté de travailler, j'ai été au chômage de telle année à telle année. Sur la santé, j'ai tel et tel problème de santé. Sur la sexualité, je n'ai pas de sexualité. C'est un préjudice de ne pas avoir de sexualité. Et donc, il y a des postes de coûts. Il n'y a pas de barème. Il y a des fourchettes larges. Donc, il y a des postes de coûts qui sont chiffrés. Et là, ce que disent les avocats en préjudice corporel, donc pas des pénalistes, des spécialistes de cette discipline, là on monte sur des sommes bien plus énormes évidemment, et bien plus personnalisées. C'est-à-dire que le traumatisme, il est personnel. Deux personnes qui ont vécu exactement la même chose ne vont pas réagir de la même manière. Certaines vont surinvestir la sphère professionnelle et vont pas avoir de problème de ce côté-là, mais au niveau affectif, vont avoir aucune vie affective. Certains vont rencontrer quelqu'un mais n'ont pas arrivé à travailler. Donc ce sont des sommes qui sont à l'image de ce qu'a vécu la victime. Et pourquoi c'est très important? Parce que si on dit un viol, c'est 20 000 euros, il y a des victimes qui m'ont dit bah, « En fait, c'est un viol tarifé. C'est un viol, c'est 20 000 balles. » Là, quand on va à la CIVI, on reconnaît le traumatisme, on reconnaît la douleur. Et c'est extrêmement important. Le problème, c'est que les pénalistes ne sont souvent pas formés à cette discipline, qui est une discipline extrêmement technique. Ce sont des avocats en préjudice corporel. Donc, quand j'ai été voir des avocats en préjudice corporel, ils m'ont dit, dans l'idéal, il faut prendre un autre avocat. Il faut prendre un avocat pour le pénal, un pénaliste, et prendre un avocat en préjudice corporel. Mm-hmm. Donc, bah, il faut le payer, ce deuxième avocat. Et vous n'êtes pas sûr de gagner à la CIVI. Alors après, si vous gagnez, tant mieux. Mais c'est encore une fois, c'est encore un investissement dont on a absolument...
aucune
garantie d'avoir retour sur investissement. Donc, quand on a les moyens, on y va. Quand on sait que ça existe et quand on n'a pas les moyens, on se dit bah non, je vais pas remettre 2000 euros alors que je suis déjà asphyxiée financièrement.
Vous en parliez au début de l'émission. Vous concluez votre enquête en rappelant toutes les conséquences possibles des violences dans la vie intime. Voilà, en fait, cette espèce de déflagration qui arrive dans la vie et jusqu'à la mort, et dans tous les domaines de la vie, le risque de précarité, d'isolement, de pauvreté. Et ce que vous dites, c'est que ces risques, ils sont bien pires si les personnes sont déjà fragiles.
Alors, jusqu'à la mort, quand le trauma n'est pas correctement traité. Je voudrais amener un petit peu d'espoir quand même, parce qu'on entend beaucoup sur les plateaux, c'est une condamnation à perpétuité... non, on peut s'en sortir.
Qui sont pas traitées.
J'en suis l'exemple. En étant bien soigné par des professionnels spécialisés qui ont des outils spécialisés, qui sont spécialisés dans la dissociation, dans le trauma, on appelle ça le trauma complexe. Alors, les personnes qui sont déjà fragiles, le plus grand risque d'être agressé, c'est d'avoir déjà été agressé. Ça rend extrêmement fragile. Donc, on va aggraver le trauma. Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter le trauma le plus tôt possible, puisque ça va éviter de rajouter d'autres traumas. Et effectivement, ces conséquences, elles durent tout au long de la vie, le temps qu'il n'y a pas une vraie prise en charge. Mais quand il y a une vraie prise en charge, c'est possible d'avoir une vie affective, c'est possible de rencontrer quelqu'un et de pouvoir relationner avec cette personne, c'est possible de travailler, Mais ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup de patience et de soutien de la part de l'entourage, beaucoup de compréhension. Et effectivement, si on vit dans un monde où c'est chacun pour soi et puis débrouille-toi ma cocotte, c'est pas possible. C'est possible que quand le collectif va s'emparer de cette question. Et c'est Judith Lewis-Herman, qui est une psychanalyste, psychiatre américaine, qui a écrit un super livre que je recommande qui s'appelle « Reconstruire après les traumatismes », qui dit, très justement, on peut ouvrir des centres gratuits, pluridisciplinaires, traiter les victimes. Quand elles sortent de ces centres, si elles sont revictimisées par des gens qui ne les écoutent pas, qui se moquent de leurs symptômes, qui les maltraitent, d'une certaine manière, ça sert à rien. Mmh. Et c'est ce qui se passe par moments. Moi, je l'ai vécu. On sort de chez la psy, oh, c'est bien, ça va mieux, j'ai travaillé sur ça. Et vlan, on se prend un truc dans la figure, une remarque, du jugement. Et c'est ça qui crée cette souffrance. Et souvent, on dit, ah, mais les violences sexuelles, ça crée des idées suicidaires. Est-ce que ce sont les violences sexuelles qui créent des idées suicidaires? Bien sûr, oui, les violences sexuelles créent des idées suicidaires. Mais c'est aussi le manque de soutien, d'écoute, à tous les niveaux. Quand vous allez voir un professionnel de santé qui vous dit, vous dites j'ai mal, il vous dit vous n'avez rien. Ensuite, vous dites à vos proches j'ai mal et on vous dit ah, tu nous saoules avec tes trucs. Ensuite, vous allez voir, t'exagères, toujours tes trucs. Après, vous allez au travail et vous dites, est-ce que je peux partir plus tôt parce que j'ai un rendez-vous médical, et on vous fait comprendre que bah, ça va être très problématique si c'est toutes les semaines. Comment vous voulez-vous en sortir? C'est pas possible. Par contre, quand vous avez ce temps, cet espace, ce soutien, là, c'est possible de s'en sortir.
Et sur cette note d'espoir, avant de terminer cette émission.
Ouais, on s'approche de la fin. Et pour finir, on va écouter notre chroniqueuse Émilie, qui continue à nous faire voyager au pays fantastique de l'hystérie, n'est-il pas, à travers son histoire. Salut Émilie.
Salut. Ça fait quelques mois qu'on voyage ensemble à travers l'histoire de l'hystérie. Et ce soir, on touche doucement au but.
Eh oui. Dans les précédentes chroniques, on avait vu que les causes de l'hystérie ont tantôt été attribuées à un manque d'activité sexuelle, ça c'était pendant l'Antiquité, tantôt à son excès, ça c'était au Moyen-Âge. Dans le premier cas, les méthodes employées se revendiquent médicales. Et dans le deuxième cas, c'est pas vraiment des méthodes, c'est plutôt mystique. De la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, ces deux héritages se sont entrecroisés et parfois même mélangés. Par exemple Charcot, le neurologue à la pitié salpêtrière dont on parlait la dernière fois, a parfaitement mélangé ces deux héritages. Certes, il adoptait une posture d'observation scientifique, on lui doit des méthodes et découvertes très importantes d'ailleurs, mais sa méthode de provoquer des crises hystériques par l'hypnose pour pouvoir les analyser ensuite sera beaucoup critiquée, surtout après sa mort.
Donc, si je te suis, Charcot a une approche clinique, mais on lui reproche aussi d'envisager l'hystérie sous un angle un peu mystique.
C'est ça. Et selon le psychiatre français Étienne Triat, le goût pour la peinture de Charcot est notoire. Il a donc chargé l'aliéniste, c'est l'ancien mot pour psychiatre, Désiré Malgoire-Bourneville, de photographier les crises des patientes, alors même que des camisoles de force sont nécessaires dans certains cas pour pouvoir réaliser ces photos. Mais bon. Et ça donne des images très picturales, rappelant parfois des tableaux de sorcières ou de saintes. Leur valeur artistique est telle qu'elle fascine notamment les surréalistes. Et l'historien de l'art Georges Didier Huberman en viendra même à considérer ces photos comme un chapitre de l'histoire de l'art. Au-delà de ça, Étienne Triat écrit que, je cite, « la nature de la maladie hystérique, c'est d'être métaphoriquement un tableau ». C'est quand même un peu le comble pour un médecin. Donc Charcot et l'hystérie, c'est un peu poubelle. Mais un certain Freud va passer par là.
Ah, dis-nous en plus.
Freud, grand admirateur de Charcot et de ses méthodes d'hypnose, passe 6 mois à la Pitié-Salpêtrière. C'est là qu'il se passionne pour l'étude de l'hystérie. Il reprend la notion de trauma, mais lui donne une racine précise. Un abus sexuel avéré, subi dans la jeunesse de la patiente, et qu'elle aurait refoulé. Ce traumatisme ressurgirait alors lors de ces crises. Cependant, Freud abandonne cette théorie en 1897 et lui substitue le fantasme d'un abus. En effet, je cite, selon Freud, « dans l'ensemble des cas, il fallait incriminer le père comme pervers. » Or, au vu des très grands nombres d'hystériques, Freud est d'avis, je cite toujours, « qu'une telle extension de perversion à l'égard de l'enfant est quand même peu vraisemblable. » Bien sûr, on a du mal à imaginer qu'autant de pères de famille, bien comme il faut, aient violé leur enfant.
Alors du coup, c'est quoi pour lui l'hystérie?
C'est un résultat du conflit entre libido et refoulement. Autrement dit, ce serait le résultat de la tabouisation sociale de la sexualité. Cette nouvelle vision des choses reconnaît certes le désir féminin, puisqu'il est refoulé, il existe, c'est notable. Mais bon, elles paraissent quand même bien ridicules ces hystériques du coup, si elles s'inventent autant de fantasmes horribles dont elles souffrent.
En tout cas, cette étude approfondie de l'hystérie lui aura permis à Freud de dessiner peu à peu sa théorie de la psychanalyse, qui est donc très connue. C'est d'ailleurs dans deux articles sur l'hystérie, en 1896, qu'apparaît pour la première fois le terme de psychanalyse. Il s'est ainsi distancié des méthodes d'hypnose et de suggestion de Charcot. Au lieu de provoquer de crises et d'observer ce qui se passe, il écoute les patientes, bien que visiblement d'une oreille distraite, enfin conforme aux normes de l'époque.
Et aujourd'hui, ça donne quoi l'hystérie ?
Bah alors, on l'a vu avec Charcot, enfin on a vu que Charcot n'était plus trop crédible après sa mort, en ce qui concerne l'hystérie du moins. Puis l'inconscient et le refoulement de Freud en médecine, il n'y a pas grand monde qui y croit vraiment. En plus, le terme d'hystérie est manifestement sexiste. Je rappelle que ça vient du mot utérus en grec, alors qu'il existe déjà des conceptions de l'hystérie masculine depuis la fin de l'Antiquité, et que Charcot a prouvé que ça venait pas de cet organe. Du coup, au vu de tout ça, et de la large remise en question de son statut de maladie, notamment aussi par Pierre Briquet, on en parlait la dernière fois, l'hystérie a aujourd'hui officiellement disparu des catalogues de diagnostic médical comme le DSM-5 ou l'ICD-10.
Mais du coup, on parle plus du tout d'hystérie.
Alors si, mais de manière plus dérivée. Ces symptômes sont désormais attribués aux troubles de la dissociation, de conversion, de somatisation et aux troubles somatoformes. Quant au célèbre caractère hystérique, il est remplacé par le trouble histrionique, du grec histrion, acteur, qu'elle simule, quoi. Enfin, c'est autre chose. Mais quand même, l'hystérie, ça reste un diagnostic officieux très répandu, que ce soit dans le langage courant, dans les instances juridiques ou encore les hôpitaux, notamment psychiatriques. Et si vous tendez un peu l'oreille dans votre entourage, vous le remarquerez peut-être, des choses comme « Quelle hystérique, ta tante ! Oh là là, cette femme politique est vraiment folle, elle est totalement hystérique !»
Merci beaucoup, Émilie.
Merci à toi.
Et Émilie, on te retrouve sur scène.
Oui, dans le spectacle Au centre de la Terre, les fleurs s'assèchent et le soleil ne fait plus d'ombre avec la compagnie Les Eaux Vives. C'est une pièce intense sur la violence intérieure subie par une jeune femme après un viol. Alors, Émilie, vous serez sur la scène du Théo Théâtre du 12 au 14 juin et en intégrale au Théâtre de la Sorbonne Nouvelle le 19 juin. Pour le coup, c'est gratuit, mais il faut réserver. Toutes les infos seront sur notre site. Je voulais vous poser, Virginie Crécy, une dernière question. Édouard Durand, l'ancien président de la Civise, a préfacé votre ouvrage. Il a fait beaucoup avancer ses sujets, notamment par ses interventions médiatiques. Il a pourtant été remplacé à la tête de cette commission. Depuis, la situation est toujours entre deux eaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
Cette situation, elle est à l'image de ce qui se passe dans les familles. C'est-à-dire que celui qui défend les victimes, on le sort de la famille. Et Édouard Durand défendait les victimes au nom de la société et on l'a sorti des instances publiques, tout simplement, parce qu'on ne veut pas voir. C'est la même chose.
Très bien. Merci. C'était merci infiniment. Oui, c'était très clair.
Mais dans des cours, j'ai fait court. C'est percutant.
C'est la fin de cette émission, donc, et la fin de cette saison. Merci beaucoup, Virginie Crécy, de l'avoir conclu avec nous. On était très heureuse de vous avoir avec nous pour cette dernière de la saison. On rappelle que votre ouvrage, votre enquête, Le prix des larmes, le coup caché des violences sexuelles, est à retrouver en librairie aux éditions Grasset. Je voulais remercier Chloé. Je voulais remercier Émilie aussi, nos chroniqueuses, qui étaient particulièrement chouettes cette saison-là et qui, je l'espère, seront avec nous la saison prochaine. Merci beaucoup, Mao. Merci beaucoup à toi,
Margot.
Putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un trou, c'est le stress. Nous, on s'arrête donc pour juillet et août et on revient en septembre. On vous souhaite un très joli été et de bonnes vacances si vous en prenez. Merci tout le monde. Merci, Mao. Prenez soin de vous. Salut.